Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, alors c'était moi qui étais préposé à aller chercher les DVD à louer hein, chez le loueur, là, à quelques mètres de chez moi. Donc j'y allais tout le temps. Hein, puis je passais des heures à essayer de trouver le bon DVD. Et je me rappelle la famille Tenenbaum. Je me rappelle bien que c'est moi qui l'ai ramené. Mais genre, je suis allé tout seul, j'ai ramené la famille Tenenbaum. Je me suis fait démonter la race par toute la famille. Genre,
c'est quoi
c'est
ça, Romain?
C'est quoi cette merde? Non, 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 c'est pas drôle, c'est tous des robots, machin. Et alors que moi, j'étais en mode, mais c'est génial. Ouais.
Mais tout est symétrique, enfin.
Vous n'avez qu'à pas m'envoyer, moi, à Vidéo Cocotier. Hein. C'est moi qui suis allé chercher.
Vidéo Cocotier.
Oui, ça s'appelle vraiment comme ça.
Vidéo on passe Cocotier. Un bonjour à Vidéo Cocotier.
Le Vietnam. In a world.
No, in a world, Jack.
What do you mean, no, in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste... comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Ouais! 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 Ouais!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta Béa, le podcast qui se fait des films à partir des bandes-annonces et ce, sans aucune...
Objectivité.
Aujourd'hui, auditrice, auditeur, place à un cinéaste très cher à nos yeux. Ce genre de cinéaste qui donnerait envie à n'importe qui de se lancer à corps perdu dans le vaste monde de l'art. Ce genre de cinéaste qui donne envie de mettre des couleurs pastel sur la toile de nos envies. Des petits airs de folk dans la playlist de nos émotions. Une esthétique rétro dans notre déco intérieur et un peu de symétrie dans le bordel de notre vie. Oui, vous l'avez compris, Wes Anderson est là, enfin dans Feta Béa, ah. Avec son nouveau film de French Dispatch. Bref, de quoi nous laisser l'occasion de rêver à la certitude d'un bon moment en salle et de donner, en un mot, notre ressenti sur l'univers Wes Andersonien. Et pour cela, je serai entouré de ma team de journalistes reporters qui travaillent pour une gazette... des plus originales. Ambiance. Fondée par trois têtes brûlées contestataires de la critique cinéma en place, La Douille Enchaînée est un journal né dans les années 1960, désireux d'ébranler les fondamentaux népotiques du pouvoir central. Analyse hebdomadaire de l'art filmique, des douilles positives ou négatives et autres sujets de controverse. Une rédac composée des meilleurs journalistes expatriés de l'époque. Clément Van Toten, cruciverbiste et verbicruciste de génie animé par les jeux de lettres, inventa à 12 ans une grille de 36 colonnes et 36 lignes qui ne pouvait être résolue qu'en diagonale. À 18 ans, c'est lui qui démontra devant le CJCLP, le congrès des jeux de chiffres et de lettres de presse, la supercherie des grilles de Sudoku, plus connue sous le nom de Sudoku Gate. Il s'occupe aujourd'hui de la partie ludique du journal, et ses jeux représentent une énigme pour la communauté scientifique mondiale.
C'est pourtant pas sorcier!
Kevin Rosenbaum, ancien détenu à la prison de Fleury de Rungis, a trouvé son salut dans les ateliers de couture que lui offraient les formations carcérales. À l'âge de 28 ans, il s'évade en cousant lui-même plusieurs centaines de draps de lit. Il fut alors attrapé, mais face à la précision et à la perfection de ses points de croix, il obtint une remise de peine et investit ensuite la rédaction du journal à la rubrique mode et tapis rouge.
La tenue de Yacédou à Deauville ne fait pas un pli.
Clémence Bridget Howard était une riche héritière de la famille du même nom. La même famille à la tête de l'empire des bottes en caoutchouc de la ville de Somme-sur-Seine. Petite, elle allait au cinéma pendant les jours de pluie, et seulement les jours de pluie, car elle était allergique au soleil, atteinte du réflexe photosternutatoire. Ce qui ne l'empêcha pas de braver son handicap en devenant la spécialiste météo du journal.
Cette semaine, les amis, il va faire... tchoum ! Grand soleil.
Et moi, je n'étais simplement que le rédacteur en chef de cette bande de zouaves.
Patron, on a une idée.
Mm-hmm. Une idée grandiose, si je puis dire.
Mm-hmm. On a réfléchi à un article sur un film qui serait...
De film...
Je vous écoute.
Ce serait la mode et les mots croisés dans...
Prometheus.
Vous êtes viré.
Ah.
Van Toten, c'était ton idée.
Je retourne faire des bouffes léchées.
Je l'avais dit, pas de ce mot dans mon bureau. Et ce fut la fin de La Douille Enchaînée.
Un journal qui dura une journée.
voilà,
c'est bien.
Voilà. Et ben dis donc, bon,
on
essaye de se casser la tête et tout. Je sais pas comment ça va donner, mais bon, voilà.
Ça rentrera bien grâce à le montage.
Des petites intros à la Wes Anderson, parce que évidemment, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Ah. Vous l'avez compris, avec son nouveau film de French Dispatch. Ah, je suis très très excité à l'idée de parler de Wes Anderson. Moi, c'est un des réals que j'adore. Et en plus, c'est un des rares parmi lesquels j'ai tout vu. Je crois que j'ai tout vu de lui.
T'as même vu Rushmore ?
J'ai vu Rushmore, j'ai vu Bottle Rocket, j'ai tout vu.
Ah, ben moi aussi,
les courts-métrages. Donc, il n'y a pas énormément non plus de ses films. D'ailleurs, là, c'est son 10e film à Wes Anderson, à 52 ans. 52 ans, il revient avec French Dispatch, qui, en plus, petite info comme ça, au départ, il y avait une rumeur de comédie musicale.
Oh.
Alors, il a très très vite démenti l'histoire en disant non, le French Dispatch ne sera pas une comédie musicale et Dieu merci.
Tout ce qui est français n'est pas musical.
Ah, j'ai beaucoup de mal à imaginer une comédie musicale vue par Wes Anderson personnellement.
Ah, moi je le vois bien.
Je le vois bien, ouais.
Ouais, étonnamment.
Ouais. Bah, ces personnages sont pas trop calibrés pour chanter quoi.
Bon,
s'ils chantent, ce sera pas des chansons drôles.
Mais dans la comédie musicale, le principe c'est que personne n'est calibré pour chanter, non ?
Enfin bon, voilà, il a son 10e film, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail après la BA parce que je vous ai demandé de réfléchir un peu à ce qu'évoquait Wes Anderson pour vous et donc on va en parler, mais on va d'abord se faire cette BA. Est-ce qu'on se la lance tout de suite ?
Allez, vas-y,
on voit.
Let's go, The French Dispatch, BA, let's
Allez,
go.
Let's go.
It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest.
You don't think it's almost too seedy this time?
No, I don't.
For decent people.
It's supposed to be charming.
He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson, Sazerac, Kremenz, Roebuck Wright. These were his people.
Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose.
We take as the subject of tonight's lecture, Mr. Moses Rosenthal. Certainly the loudest artistic voice of his rowdy generation.
Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it.
It's not for sale.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yes.
In short, the picture was a sensation.
The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom, full stop.
I'm naked, Mrs. Kremenz.
I can see that.
Lieutenant Nescafier.
He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking.
The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken.
As you know by now, we have kidnapped your son.
A message from the foreman. 1 hour to press.
You're fired.
Really?
Don't cry in my office.
Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré.
Parce qu'on ne peut pas faire un épisode sans chanter, ce n'est pas possible.
Je suis Fitabia, c'est impossible. Et j'ai crié.
Bon. Crié.
La BA.
Pour que French Dispatch se lance.
Alors, French Dispatch, la BA, qu'est-ce que ça donne ? On va tout de suite en parler.
C'est
On va
mal.
En parler un peu plus en détail. Mais vous connaissez déjà l'histoire. Qu'est-ce qui se passe avant de faire la BA ?
Il faut appeler l'autre la machine.
Ah oui, parce que c'est une BA qui est mine de rien, pleine d'infos, qui a beaucoup de plans, hein, j'ai l'impression. Et combien, par contre, je ne sais pas. Et pour cela, il va falloir appeler El Calculator, notre ordi compteur de plans. C'est parti.
C'est moi. Salut les journalistes.
Bonjour machine étrange, vous êtes très mal apprêtée.
Yo.
Ok. Dans la BA de The French Dispatch, il y a 96 plans en 2 minutes 33, soit 0,6 plans par seconde.
C'est un complot, je l'avais dit.
Encore
depuis
un film qui tombe dans le complot.
Le complot du 0,6, la moyenne.
Bientôt, n'aura plus besoin de toi.
La BA. Ouais,
c'est ouais. Faux, car des fois, il y a des films pas dans le complot, Clémence.
Oui, bon, hein. Le calculateur, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette BA riche
Wes Anderson, je l'aime bien car il fait des plans droits et symétriques, c'est rassurant. Il doit sûrement se servir de mon cousin, Elsimetrator.
Ah, oui.
Un ordinateur efficace mais un peu rigide, je trouve. Il ne pourrait jamais faire des coups d'état ou ouvrir un compte Twitter comme moi.
Ah oui, mais en parlant de Twitter, le calculateur, là.
Oui, j'ai 8 abonnés.
Moi, je t'ai autorisé à aller sur Twitter, il n'y a pas de problème. Hein. Les gens, après, ils font ce qu'ils
veulent.
Ils ne te suivent pas, même si je les mets en garde. Mais t'as pas changé ta bio ?
Non, pourquoi devrais-je ?
T'es toujours créateur et animateur de FetaBA ?
Oui.
Bah, ça me fait un peu mal au cœur de voir ça, parce que c'est pas la vérité, le calculateur. On
que devrais-je mettre ? Quelle est la vérité ? La vérité est subjective.
Après, j'ai réfléchi, et puis bon, c'est un peu lui qui anime, en vrai.
Le gars, il est là 15 secondes par émission.
Il
les
fait
gars.
Quand même des inversions sujet-verbe hein, depuis tout à l'heure.
Bon, ce que je te propose, les calculateurs, c'est que tu remplaces ça par membre d'honneur de FetaBA. C'est vraiment, il n'y a que toi qui l'as. Hein. C'est vraiment honorifique.
Membre d'honneur,
c'est pas mal.
Je vais y
c'est
réfléchir.
Comme ça qu'on appelle à la banque de sperme.
Il va y réfléchir. Non, mais change. Je sais pas d'où elle sort celle-là. C'est difficile de reprendre maintenant sur.
D'accord, je vais mettre ça dans ma bio Twitter.
Ah, bah c'était facile à le convaincre. Oui, voilà, on va faire ça. Ça te plaît Twitter, le calculateur de
J'adore, c'est vraiment un réseau social bienveillant. On s'y fait plein d'amis.
Mmh. Moi, je te vois un peu passer par-ci par-là. J'espère que t'embêtes pas mes copains. Hein.
Non.
Ouais, ok.
Fais gaffe, hein. Fais gaffe à
entendre ma nouvelle fonctionnalité.
Ça veut dire qu'il en a déjà marre. Il veut vite partir, le calculateur. C'est quoi ta nouvelle fonctionnalité qui est plus si nouvelle que ça ?
Le film dure 1h43. C'est assez court. Et la BA montre 2 minutes 17 d'images. Grâce à ma fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 2,2% des images du film.
Putain, énorme. On voit beaucoup de choses.
C'est beaucoup.
Ouais, c'est vraiment énorme. On est aux alentours de 1,4, 1,6.
Je suis un peu dégoûté.
C'est 2-2.
Il reste que 98% à découvrir. Ça m'intéresse plus du tout.
On part déjà avec 2% dans la gueule, c'est assez ouf. Mais voilà, une BA qui fait plaisir aussi parce qu'elle annonce un film de moins de 2 heures. Hein ?
De moins de 2h30 déjà.
Kevin, il vient de suivre le calculateur. À l'instant.
Ah oui.
J'avais oublié de le faire.
Je reçois une notif, Kevin vient de vous suivre.
Je sais même pas s'il suit FetaBA, Kevin, à la base.
Aussi, je le suis. Je suis le admin.
D'accord, il s'est barré. Maintenant, on dirait qu'il a un décompte. Quoi.
Non, mais écoute, il fait son travail, il s'en va. Voilà, il est comme un.
J'espère qu'il est en train de changer sa bio sur Twitter. Hein, parce qu'il est en train de mentir aux gens là.
Je pense qu'il va la changer, j'ai confiance en lui.
Bon, on va se lancer dans la BA.
Allez,
oui.
Wes Anderson,
alors, un journal en France. Voilà.
Un journal. Non, mais bon, le petit panneau compétition officielle de Cannes, ça a été en compète.
Ouais.
Je savais même
il
pas
a pas eu de prix.
Ça a rien gagné. Ouais.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le film il devait sortir en août 2020. Il a été reporté à cause de
Covid.
Bien sûr. Il devait sortir ensuite du coup en octobre 2020. Il a été reporté.
Covid.
Voilà, Covid. Et au final, tant mieux parce que il a pu finir au Festival de Cannes 2021. Quoi. Et petit panneau qui fait plaisir. Wes Anderson après, c'est genre les lauriers Cannes, tout ça, il connaît bien. Hein. Donc Searchlight Pictures, évidemment, on nous annonce les boîtes de prod. Hein. Searchlight Pictures, qui est une filiale de la Fox, hein,
oui.
Qui s'appelait jadis Fox Searchlight Pictures, oui. Voilà, qui appartient aujourd'hui à Disney. Donc du coup, on pourrait dire...
Le renard a disparu.
On pourrait dire que ce film est un film Disney, quoi, hein, techniquement.
Je crois qu'ils ont fait en sorte d'enlever Fox de Searchlight Pictures pour justement... séparé de Disney et de la Fox qui est maintenant Disney.
C'est comme 20th Century Fox s'appelle 20th Century Studios.
Ouais.
Donc ouais, il n'y a plus de Fox, hein, c'est fini. C'était la petite anecdote.
Et Indian Paintbrush.
Voilà, Indian Paintbrush.
C'est sa prod à lui ?
Non, il en a produit. Il y a pas. En fait, je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup de productions Paintbrush. Depuis The Darjeeling Limited, ça s'est occupé de tout ce qui est Wes Anderson. Il y a eu d'autres films, en fait, d'autres films qui pourraient vous parler, genre Trance. Est-ce que ça vous parle, Trance ?
Ouais, c'est de Danny Boyle.
Oui, c'est Danny Boyle.
Avec James McAvoy, tout ça, c'était pas terrible. Young Adult de Jason Reitman, là, avec.
Mais c'est pas la prod de Wes Anderson ?
Non, c'est pas la, c'est pas la sienne. Okay. Non, c'est une prod américaine. Mais...
C'est bizarre qu'elle s'appelle Indian quelque chose et que ça soit fait pendant le Darjeeling Limited qui se passe en Inde.
Eh ben, écoute, ça a peut-être inspiré et tout. Je ne suis pas allé plus loin dans le Wikipédia de Ken Brunch.
Nous enquêterons.
Voilà, je laisse une petite
en
part du mystère.
En tout cas, prod indé.
Ouais, en tout cas, oui, ça s'occupe un peu de ce genre de film. Quoi. Vous avez compris, hein, Redman, Anderson, un peu de voilà, film indé, indé niche, si on veut.
Loufoque.
Ensuite, on va rentrer directement dans la BA parce que bon, les panneaux, tout ça, on connaît. On va présenter un peu le contexte de cette BA, elle est un peu particulière. Vous allez voir comment on va la découper. Mais on va présenter d'abord le contexte et les personnages. Donc, on a tout de suite un plan sur une imprimerie de journal avec une voix off douce et délicate qui se lance. Et donc, on peut affirmer qu'on est bien dans un Wes Anderson, d'autant plus que le plan qu'on voit est un plan animé. Vous avez fait gaffe ou pas ?
Oui. Bah, il m'a semblé, mais j'étais pas sûr.
Enfin, avec tous les engrenages, enfin, les rouages, je sais pas comment
on appelle
ça, etc.
Tout le mécanisme de l'imprimerie rappelle L'île aux chiens, par exemple.
Ouais, c'est de la stop motion, j'ai l'impression.
C'est de la pure stop motion. C'est de la pure stop motion, et on va retrouver ça un peu partout dans la BA, des petits plans comme ça, avec des titres qui sont entièrement du décor stop motion. Donc, on est bien dans un Wes Anderson, ouf, on est rassuré. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la voix off ? Elle nous présente qui ?
Elle nous présente Bill Murray.
Qui se nomme, si j'ai bien compris, hein, je pense que c'est bien lui, je ne me trompe pas, Arthur Ovitzer Jr., qui est simplement à la tête de French Dispatch.
Du journal, oui.
Et c'est quoi, de French Dispatch ?
Mais au début, c'était des carnets de voyage et c'est devenu un journal.
C'est le résumé,
ouais.
Mais c'est exactement
non,
mais en
fait,
ça.
C'est non, parce que ça me fait vachement penser à la famille Tannenbaum où tout part du patriarche, du père qui a vécu sa vie de ouf et tout. Et en dessous, il y a toute une arborescence, un arbre généalogique de gens tout aussi farfelus. Voilà, c'est pas une famille, mais c'est une entreprise. Rédaction. Et voilà, tout part de cette personnalité en fait qui a l'air d'être le gars vraiment qui a bourlingué.
Et qui n'est autre qu'encore une fois Bill Murray qui apparaît dans.
Tous les films
de Wes Anderson, peut-être pas Bottle Rocket, je me souviens.
Je crois que si.
Dans Bottle Rocket, il y est déjà.
Je crois qu'il a un petit rôle. Bah, j'ai un souvenir de Bill Murray qui est sur un plongeoir, mais je sais plus si c'est Rushmore ou si c'est Bottle Rocket.
Non, c'est OSS ça.
Non, ça c'est des gens du jardin.
En tout cas, oui, bah, c'est le copain.
Presque tous les films en tout cas.
Bill Murray est toujours là, que ce soit une voix ou que ce soit en tant qu'acteur présent à l'image. Voilà, Bill Murray est là. Donc Bill Murray s'occupe du coup de ce journal, de French Dispatch, qui est, comme le dit la BA, l'analyse hebdomadaire de la politique internationale, des arts beaux ou non, et autres faits divers et variés.
Ah, c'est un peu comme fait ta BA.
C'est un peu ça.
À part que c'est pas hebdomadaire, nous.
Un peu comme la douille enchaînée. C'est hebdomadaire entre guillemets. Hein. Il est vraiment entre guillemets le hebdomadaire chez Fetabea. Mais j'ai l'impression que c'est un journal qui ressemble un peu au New Yorker. Vous connaissez le New Yorker ?
Ouais, de nom.
Qu'est-ce que c'est ?
Ce journal new-yorkais, enfin américain, qui s'appelle le New Yorker. Mais dans la présentation, où c'est vraiment juste le titre avec une couverture à chaque fois qui est très recherchée, très graphique et tout, et qui parle un peu de sujets mondiaux, quoi. J'ai jamais vraiment ouvert un New Yorker, je vous l'avoue, mais j'ai pas mal été inspiré quand j'étais plus jeune par les couvertures de New Yorker.
Là, ça a l'air d'être moins magazine, ça a l'air d'être plus un peu un journal PQR, quoi, j'ai l'impression.
Une dépêche.
Et ça a surtout l'air, ça on le reverra peut-être plus tard dans la BA, où j'ai cru comprendre que c'était ça, mais ça a l'air d'être une espèce de filiale américaine. Française du coup.
Oui, du Kansas, c'est ça là.
Oui, parce qu'il y a un sous-titre en fait, on le voit d'ailleurs sur l'immeuble où il y a marqué The French Dispatch, il y a un petit sous-titre.
Qui est le sous-titre du film, qui me semble.
Non, il n'est. Je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas vu l'affiche, je me souviens plus. Mais c'est The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun. Donc j'ai l'impression vraiment que c'est une filiale d'un magazine plus grand américain.
Ouais, je sais pas. Après, tu vois, ce qui est marrant, c'est que justement, le gars a voyagé. Alors, soit de façon sérieuse, il vient de là-bas et c'est pour ça qu'il y a cette origine du journal, cette essence. Soit, en fait, c'est absolument romanesque. C'est que le gars, justement, il a une espèce de rêve américain, tu vois, et qu'il veut faire façon New Yorker ou quoi. Enfin,
c'est juste histoire de
donner un genre au truc, tu vois. C'est très
poétique.
Le mec s'appelle
Ovitson, je sais pas quoi, il est pas français.
Moi, je pense que c'est une filiale américaine du journal, qui est installée en France.
Bah, moi, je partirais sur ça parce qu'ils parlent tous très bien anglais avec l'accent.
Ouais, mais alors, ils disent dans la BA que les reporters qui travaillent avec lui sont des expatriés en Europe.
C'est des espèces de reporters quoi. Enfin, on va y arriver. Du coup, on voit quelques scènes dans la rédac au travail là, dans la BA. Des plans évidemment ultra léchés hein, comme Wes Anderson sait faire. Et dans cette rédac, il y a les meilleurs journalistes expatriés. Tu l'as dit, Clémence, qui seront réunis, là, j'ai l'impression, pour un numéro spécial. Moi, je pars sur ça. J'ai l'impression qu'ils sont en train de créer un numéro spécial parce qu'on les voit face à une espèce de gros board, là, en liège, là. Gros tableau. Où il y a vraiment genre le prochain numéro qui va sortir et puis ils annoncent du coup les journalistes.
Bah justement, je pense pas que c'est spécial en fait. C'est juste que en fait chaque mois, enfin ou chaque semaine ou chaque jour, tu fais ton chemin de fer quoi. En fait, c'est juste quotidien quoi.
Ouais, mais j'ai l'impression que pour celui-là du coup qu'il y a parce qu'ils présentent les journalistes. On a qui comme journaliste? On a Berensen. C'est présenté comme ça.
C'est Tilda Swinton.
Ouais, 10 acteurs, parce que je me rappelle plus des noms.
C'est les noms de famille. Berensen, Tilda Swinton, Sazerac,
Owen Wilson.
Tremens, Frances.
C'est McDonald
et Robert Wright, qui n'est autre que
Jeffrey Wright.
Jeffrey Wright qui a gardé lui du coup
le
nom,
même
c'est,
nom.
C'est pratique.
Oui.
Ouais, c'était dans son contrat.
Donc voilà, on a un peu ces quatre fantastiques là. Moi, j'ai vraiment l'impression que du coup, en fait, le journal, il y a beaucoup de journalistes parce qu'on voit à un moment Elizabeth Moss, on voit aussi d'autres personnes comme ça qui traînent un peu dans la rédac. Enfin, moi, j'ai l'idée que c'est un numéro spécial. Je sais pas vous, mais moi, je partais sur ça.
Pourquoi pas,
mais pas sûr. Je pense que c'est un jour comme un autre.
Ouais,
un
c'est jeu. Ça. C'est la plongée dans un numéro de ce journal, un numéro type, comme ils en font régulièrement.
Bah, il faudrait bien proposer quelque chose. Ils peuvent pas juste montrer en mode documentaire la journée type de The French Dispatch.
Non, mais tu sais, c'est un peu comme le Grand Budapest Hotel, où finalement, c'est une journée ordinaire qui se transforme par un événement qui n'était pas prévu en quelque chose d'extraordinaire. À mon avis, ce sera pareil.
C'est vrai, t'as peut-être raison. Que
oui, parce
qu'en
fait, du coup, ce qu'on va voir, tu vas y venir, c'est qu'ils vont avoir plusieurs sujets.
Vas-y, lance le truc.
Ils vont avoir plusieurs sujets. On a un peu l'impression que chacun des reporters va se coller à un sujet. Donc là, Béa va développer ça. Et à mon avis, comme dit Kevin, tout ça est dans le même numéro. Et finalement, il va peut-être y avoir des liens entre ces différentes histoires. Et ça va créer finalement un faisceau d'événements qui vont donner une image, une photographie de la société à ce moment-là.
Les années 70.
Ah, t'étais déjà en années 70.
Eh oui.
T'as déjà repéré un. Vous avez une année, vous, précise peut-être?
Oui, ça parle de mai 68, donc je pense que.
En fait, c'est compliqué avec les films de Hans Dersen parce que t'as l'impression qu'ils sont un peu intemporels et qu'ils s'inspirent de plein d'époques différentes. Et certes, là, ça a l'air de parler de 68 et tout, mais je suis pas sûr que ça se passe forcément dans ces époques-là.
C'est pas dit, c'est pas forcément dit. On commence avec le récit numéro 1, le chef-d'œuvre de béton. Par J.K.L. Berenson.
J.K. Rowling.
J.K.L. Berenson, yeah.
Du coup, on comprend que ça va être un paplard venant de la main de Berenson, qui n'est autre que Tilda Swinton dans le film. Et là, on part du coup.
Elle fait une conf en plus pour en parler.
Ah voilà, on a l'impression qu'elle est en TED Talk, quoi.
Ouais,
elle
ouais.
Ou un truc Apple.
Donc,
ouais.
on nous présente du coup Tilda Swinton, qui est derrière son pupitre et qui nous présente un des plus grands artistes qu'elle ait pu rencontrer. Dans sa vie de journaliste.
Qui est un prisonnier.
Et problème, ouais, c'est ça, il est en taule, le gars.
Elle lui dit, l'artiste le plus puissant de sa génération tapageuse, Moses Rosenthal. C'est son nom.
C'est joué par Benicio del Toro.
Et on ne saura pas pourquoi il est en prison en ABM.
Il me fait penser à Banksy.
Ah,
tu veux dire à Romain?
Dans l'esprit.
Pardon,
non, mais dans l'esprit, tu vois, parce qu'en fait, on le voit qu'il balance de la poudre comme de la peinture pour ses pigments,
c'est
pigments de peinture.
C'est marqué céréales sur le tonneau.
Céréales.
Ah, il jette des céréales.
Okay.
Non, mais il est complètement fou.
Il a un
fait.
Énorme pinceau.
Et du coup, il a l'air à la fois artiste et contestataire. Et justement, ouais. S'il est en prison, c'est peut-être parce qu'il a.
Et puis là, ça parle d'une œuvre, surtout.
Et quelqu'un veut lui acheter son œuvre, et c'est Adrienne Brody.
Et l'œuvre, c'est quoi? Parce que moi, ce que j'ai compris de l'œuvre. C'est que c'était un portrait de Léa Seydoux nue.
Oui.
Oui.
Et que Léa Seydoux, c'est la gardienne de prison.
C'est la gardienne du. Ah, de musée, moi, j'allais dire.
Non, c'est la gardienne de prison.
Alors, oui, on voit là, du coup, dans la présentation de ce récit numéro 1, une œuvre incroyable présentée à la partie de la Swinton qui s'appelle Simone, nue, cellule J, salle des loisirs.
Mais ça y est, j'ai une illumination. C'est ça, en effet. Bah, voilà.
Il est peintre en prison.
Il a fait ce tableau en prison et du coup le tableau est en vente au moment où il est en prison, donc c'est un super bon sujet pour le French Dispatch.
Ah non,
et c'est ça. J'avais capté
tout de suite comme ça que c'était justement un mec emprisonné pour une raison X ou Y, mais qui a pas l'air quand même très très net dans sa tête, qui est totalement loufoque, mais ça reste un grand artiste. Incroyable quoi, une espèce de Salvador Dali.
Comme Bronson.
À Fox River quoi.
Qu'est-ce qu'il peut avoir fait ce gars? Parce qu'il a pas l'air si méchant que ça quand tu l'entends parler avec notre ami
Graham. Tu le vois plus loin dans la BA, il y a marqué dans son dos.
Condamné psychopathe.
Condamné psychopathe. Donc.
Ouais, psychopathe, c'est un mot qui.
Oui, mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que l'article dans l'histoire et même Wes Anderson dans son film va avoir ce jeu de dire que l'artiste est un fou psychopathe.
Et ça va jouer sur la cote de l'œuvre. Ouais.
Une œuvre apparemment qui a l'air tellement ouf que qu'il y a un acheteur qui se propose pour l'acheter qui n'est autre qu'un autre condamné quoi, qui est Adrien Brody.
Et un habitué aussi de Wes Anderson.
Ah oh, oui.
Oui, oui, c'est vrai. T'as raison, ça fait partie de la famille Anderson totalement. Adrien Brody qui décide d'acheter cette œuvre, mais qui apparemment n'est pas à vendre.
Il a l'air d'être en prison lui aussi, non ?
Oui, mais oui. Oui, parce qu'on le revoit aussi dans la BA, il est en prison. Pourquoi ?
Exilé fiscal.
Évadé fiscal, ouais, c'est marqué dans son dos. C'est une prison où on te marque ce que t'as fait dans ton dos, quoi. Donc, faut pas...
C'est pratique, pédophile, ah toi.
C'est ceux qui passent pas la nuit, hein, ceux-là. Oui. Donc là, apparemment, l'œuvre n'est pas à vendre, évidemment. Un artiste, il fait pas ça pour vendre ses œuvres, il fait ça pour l'amour de l'art, hein, évidemment. Donc on a cette fameuse scène, si, non, si, il a à vendre, si, non, si. C'est rigolote.
Ça, c'est de la négo, ça.
De base,
c'est de la négo de base.
Qu'est-ce que ce serait l'histoire du coup autour de ça ? Qu'est-ce que serait l'histoire de ce récit numéro 1 pour vous ? Ou comme ça vite fait. Hein.
Oh bah vraiment, ouais, un mec. Moi ça me rappelle vraiment Bronson de Winding Refn, c'est-à-dire le mec qui se met à peindre en prison et qui en fait est un peintre de génie, et tout d'un coup, comme il est en prison, ses œuvres ont plus de valeur que si c'était un peintre lambda, alors que peut-être que ce qu'il peint est pas ouf, mais comme c'est un prisonnier, ça prend de la valeur. Peut-être une critique de l'art contemporain, je ne sais.
Moi je sais pas, j'ai l'impression que c'était déjà un artiste avant d'être en prison, tu vois. Et que en prison, il avait donc cette œuvre là sur la gardienne de prison, donc elle est assez doux, donc Simone, c'est ça, si j'ai bien compris ?
Simone, ouais, je pense qu'elle s'appelle Simone.
Après, je sais pas ce qu'il a fait, mais j'ai l'impression qu'il a un peu un traitement à la Van Gogh, donc le mec dépressif mais un peu.
Il a quand même une camisole, il a une camisole, non ?
Ouais, une camisole, ouais. Ouais, donc ouais, le mec quand même pas stable, quoi. Et il y a un plan, je crois que c'est un peu plus tard dans la BA, où tu vois Léa Seydoux dans ce qui a l'air d'être la peinture, mais tu la vois pas en entier de la peinture, et qui a son uniforme. Et qui a l'air d'être un peu en mode tu touches pas la peinture, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir une histoire avec la gardienne aussi. Je pense qu'il y aura une espèce de relation peut-être muse-artiste un peu compliquée.
Ouais,
et que ça va se prendre
autour
de ça.
Parce qu'en plus, à ce
moment-là,
on voit que la peinture, elle est comme dans un musée, en fait.
Ouais.
Elle a été mise dans un musée. Donc.
Mais ça a surtout pas l'air d'être quelque chose de très figuratif, quoi.
C'est abstrait.
Ça a l'air abstrait.
Ça a l'air complètement fou. Ouais, bah, ça va être ça. Mais ça a l'air de donner des petites scènes cocasses. Et puis l'idée que ce soit la gardienne qui est posée nue pour un détenu, je trouve ça marrant.
Et on voit une scène où des détenus sortent de la prison.
Oui.
Ah oui, mais moi, à mon avis, il va y avoir émeute. Hein,
avec
ça va partir.
Le mur qui a explosé et tout. Donc est-ce que c'est pas ça qui lance l'article du journal ?
C'est possible. Moi, je pense que l'évasion. C'est une œuvre d'art.
Ah, tu crois que l'évasion, c'est dû à l'œuvre ?
Oui. Ah oui, mais l'œuvre d'art, pour moi, a créé des espèces d'émeutes qui ont fait en sorte que tout le monde a pété un câble. Et
je sais pas, moi, j'avais l'impression quand même que l'article se basait sur le fait qu'il avait fait son tableau en prison et juste ça au départ, mais que potentiellement aussi, le film peut nous montrer que le journal avec ses articles a une influence sur la suite de l'histoire.
Peut-être. On passe au récit numéro 2, comme la BA nous le propose à ce moment-là, qui s'appelle simplement « Refonte d'un manifeste » par Lucinda Kremens. Alors là, on change de format, on change de couleur, on passe du noir et blanc format carré à un noir et blanc, mais aussi des couleurs,
scope.
Mais dans un format scope. Quoi.
D'ailleurs, tu remarqueras que dans cette histoire, la couleur a l'air d'être en format 4 tiers et le scope est réservé au noir et blanc.
Mais on en reparlera ça aussi à la fin quand on aura fait la BA, parce que c'est assez compliqué aussi de s'y retrouver. C'est ça que je disais quand il y avait beaucoup d'infos, c'est qu'on change de format, de couleur. Où est-ce que tu
le fond
emmènes
et la forme sont très riches dans
où
cette BA.
Où nous emmènes-tu, Wes Anderson ?
Mais dans quelle direction allons-nous, Wes ?
Eh bien, je vous emmène. Ah non, il n'est pas là.
Je t'emmène.
Que raconte ce récit numéro 2, Refonte d'un manifeste ?
Ce récit, il est introduit avec l'idée de la jeunesse, la rébellion de la jeunesse contre
liberté.
L'ordre républicain installé depuis 15 ans.
Ça ne nous rappellerait pas quelque chose, ça ?
Mai 68.
J'ai l'impression que c'est totalement ça. J'ai l'impression qu'on est sur le mai 68. On voit des barricades, on voit des scènes d'émeutes.
Des gens en scooter, donc forcément on est en 68.
Ça se passe en France à une certaine époque. On cramait pas encore les bagnoles.
Il y a un moment, il y a un plateau avec des cigarettes où il y a marqué gaulliste dessus.
Oui, donc là on sait.
Gaulliste.
Oui,
il y a marqué gaulliste.
Il y a marqué gaulliste.
Ouais, ouais.
Au lieu de marquer gauloise, c'est marrant. J'avais pas fait attention à ce détail. Donc, ouais, j'ai l'impression vraiment du coup, un segment qui sera.
Autour de Chalamet
jeunesse,
Lina
Coudry, voilà. Lina Coudry, c'est un nom que je ne sais pas si vous connaissez, mais peut-être que vous l'avez déjà vu.
Elle a eu un César pour Papicha.
Voilà. C'est une petite étoile montante. On espère que ça va aller loin pour elle. En tout cas, très content de la voir un peu plus. Et donc, ouais, ça va être autour de la jeunesse, j'ai l'impression. Et mai 68.
La révolte.
Et on a aussi un autre élément, donc c'est Frances McDormand qui s'occupe de ça, qui s'occupe de cet article, parce qu'en plus elle a directement interaction avec les personnages de son article,
oui.
Contrairement à...
Dans la baignoire.
Contrairement au récit
numéro
1.
Mais c'est marrant parce qu'en fait, Timothée Chalamet, c'est l'image type de l'étudiant des années fin 60, là, 68, et j'ai plus l'impression que comment elle s'appelle, Lina
Coudry.
Coudry, c'est elle qui est plus frondeuse. Que lui, c'est plus un étudiant qui va être emporté par le mouvement.
Ouais.
Et je me demande presque même... Après, c'est peut-être juste parce que c'est complètement absurde et que c'est Wes Anderson, mais c'est vrai qu'on voit la journaliste Frances McDormand qui vient voir Chalamet alors qu'il est dans son bain. Soit c'est parce que c'est vraiment une intrusion du journaliste dans l'intimité, soit c'est parce que si ça se trouve, en fait, ça se trouve, c'est sa mère. Enfin,
ouais,
je sais pas,
j'ai
tu
pensé
vois.
À ça.
Voilà,
ouais.
Il peut y avoir ce contexte autour. Ah, on a fait son article.
Ouais,
et en fait, c'est son
lien,
fils
ouais.
étudiant, quoi.
Ah oui, du coup, lui serait motivé justement un peu par la carrière de sa mère. Il serait un peu dans ses
pas. Je sais
pas,
mais en gros, elle irait chercher un témoin et quelqu'un pour témoigner dans son article
bien,
qui est typiquement son fils, en fait,
possible,
qui est cette génération.
Possible.
Bizarrement, moi, ça m'a fait penser à un autre film. Ça m'a fait penser au Redoutable.
Oui.
Oui, bah parce que ça se passe à la même
et parce que,
ah oui.
parce que Chalamet me rappelle une figure un peu godardienne. Non, mais vraiment.
T'arrives à en parler, ça va.
Putain. Non, mais en vrai, il a vraiment une figure comme ça, parce que Godard était quand même très engagé dans mai 168 et dans les revendications des jeunes à cette époque-là. Il avait même,
annulé
un festival
de Cannes
quoi, à l'époque. Et j'ai l'impression que c'est un peu une figure comme ça, chez la même espèce d'intellectuel un peu riche, un peu...
Oui, la saclope au bec, les cheveux en bataille.
Il a un porte-cigarette en plus, donc ouais, déjà, ouais. Ça veut dire que t'es un peu, tu te salis pas les mains, quoi. Et ouais, j'ai l'impression que c'est une espèce de...
Il y a un côté Saint-Germain-des-Prés.
De bonne famille un peu bourgeoise qui s'intéresse d'un coup aux problématiques des petites gens, quoi, un peu marxiste, quoi, d'où la refonte du manifeste, à mon avis.
Pour terminer un peu vite fixement, j'ai l'impression aussi qu'il y aura au centre de ce truc un chanteur ou un groupe de musique. Il s'appelle Tip Top. Vous n'avez pas fait attention à ça ?
Tip Top, ouais, les réseaux sociaux.
TikTok.
Non, pas TikTok, mais Tip Top. Vraiment, il y a des affiches Tip Top, vous n'avez pas fait attention ?
Ah non, je n'ai pas vu ça.
Donc, à un moment, elle arrache une affiche et il y a un mec au milieu, il y a marqué Tip Top, donc chanteur, groupe de musique, j'en sais rien. Mais
ça, c'est les yéyés. Parce qu'à l'époque, en fait, il y avait, tu vois, tous les étudiants étaient à fond, justement, la musique des yéyés, comment elle s'appelait, France Gall, etc. C'était
copains,
vraiment cette époque, quoi.
Ouais, sur les barricades, ça chantait ça, à l'époque.
En gros, tu vois, les étudiants étaient en mode libération de nos droits, de notre corps et tout, et puis par la musique, les groupes de rock.
Ouais, mais ça va être ça. Ça va être le segment un peu rebelle jeunesse, et puis il va s'en donner à cœur joie, parce que c'est aussi quand même les BO des films Wes Anderson sont quand même assez croustillantes, quoi. C'est vraiment toujours à chaque fois très très bien choisi pour illustrer ce qui montre. Récit numéro 3. Troisième
article. Cuisinier japonais qui cuisine pour un commissariat.
Et voilà, merci à tous. À la semaine prochaine.
Si je puis me permettre, je crois qu'il est coréen.
Oh, pardon.
La salle à manger privée du commissaire par Robert Wright. Voilà, c'est le titre du récit numéro 3.
Très mystérieux, celui-là.
Qu'est-ce que ça raconte, la salle à manger privée du commissaire par Robert Wright?
Franchement, j'en sais un peu rien.
Là, c'est le truc, j'ai l'impression que c'est le segment le plus bizarre.
Ce qui est ouf, c'est qu'en fait, il y a un vrai mélange dans le montage entre cuisine et tir et ambiance police.
Oui, on voit un gars qui fait cramer des trucs et en même temps, ça tire sur des cibles.
Alors
donc,
oui, on voit du
voilà.
coup Robert Wright, donc le journaliste interprété par Jeffrey Wright, sur un plateau très 70s télé, qui présente du coup le lieutenant Nescafier, qui est interprété par Stephen Park et qui n'est autre que le maître du genre culinaire appelé la cuisine policière.
Mais je trouve ça très drôle parce que tu sais, dans Top Chef et tout, maintenant ils parlent de brigade et tout pour les cuisiniers.
Ah,
je trouve qu'en
vrai,
c'est deux mondes qui sont pas si éloignés.
Oui, dans
une discipline,
c'est vrai. Voilà, chef, il est un peu militaire.
Moi, ce que j'ai compris, et en plus j'avais vu ça sur l'affiche dessinée du film, c'est qu'en fait, il y a un lien entre Mathieu Amalric et le cuisinier. Je sais pas qui.
Stephen Park,
Stephen
il s'appelle.
Park.
Il y a un lien entre Stephen Park et Mathieu Amalric parce que Mathieu Amalric mange la cuisine de.
Donc ce serait lui le commissaire, Mathieu Amalric ?
Bah ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça, sachant qu'en plus, dans la BA, on lui dit qu'il y a une disparition, quelqu'un qui a été enlevé. Et...
Voilà. Du coup, voilà. C'est qui Jeffrey Wright ?
Alors, bah, c'est le journaliste. C'est Robert Wright.
Exact.
Est-ce que ce serait pas là
c'est moi qui n'ai pas suivi.
Qui les relie tous. Parce que, en fait, quand j'y pense, je me dis, bah attends, d'un côté, tu as l'histoire d'un mec qui est en prison, qui est artiste et tout, mais qui est quand même en prison, donc il y a quand même une histoire judiciaire. De l'autre côté, tu as des révoltes, donc l'intervention de la police. Et le troisième lac, tu conclus sur un flic qui est aussi cuisinier, ou en tout cas qui aime la cuisine.
Avec un lien avec la prison
et
aussi.
J'ai l'impression que c'est cet arc-là qui va rejoindre les deux autres, quoi.
C'est fort possible.
C'est vrai qu'il y a, il y a la police qui est en lien, enfin du coup la loi quoi, qui est en lien dans les trois segments.
En fait c'est ça, dans chaque segment il y a un lien entre culture, art
et
autorité.
Et justice, ouais.
J'ai l'impression que c'est
allez,
un peu
on
la, quand même,
le film.
Voilà, non mais c'est un peu la thématique globale et ce qui va être traité par ce journal et c'est ce qui est intéressant finalement,
ouais,
c'est que même
ça,
quand tu es dans un journal, on le voit dans le film Les Illusions Perdues.
Du coup, ouais, bah, pour finir le récit, le récit numéro 3, voilà, c'est une histoire de disparition. On enlève le fils de Mathieu Amalric, j'ai l'impression, et puis Mathieu Amalric, très expressif dans cette scène-là, nous fait comprendre que ça va être la merde. Quoi,
et il y a la chanson Aline.
Et voilà. Et ce
pourquoi
fils qui... ce fils qui est lui-même séquestré par Saoirse Ronan, c'est pour ça que bah, on voit un gamin à un moment enfermé dans un placard, j'imagine que c'est lui, tu vois. Elle lui dit ferme ta gueule, un truc comme ça, tu vois.
Elle lui dit plus poliment.
Oui, elle lui dit plus poliment, évidemment. Moi, je suis pas très andersonien dans ma façon de s'exprimer, mais voilà. Et oui, Aline qui se lance, hein, de Christophe, interprété par un autre que Christophe, évidemment. Il s'appelle Jarvis Cocker. Voilà,
ah oui, ok, c'est un chanteur anglais. Et Léa Seydoux qui crame un gars. Vous avez capté ça? Bah
non,
oui, elle active la chaise électrique de Benicio del Toro.
Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est peut-être là justement
donc
que
elle
le
est
foudre...
elle est bourrotte.
Non, mais attends, parce que pour moi, il montrera pas ça à Wes Anderson. C'est genre, à mon avis, ça va être l'exécution qui va mal virer et il va y avoir coup de foudre, jeu de mots.
Littéral.
Et peut-être qu'à ce moment-là, l'idée d'un tableau va naître, tu vois.
Tu crois que donc c'est un flashback?
Fais ton titre, coup de foudre à la chaise électrique.
Coup de foudre à ennui sur blasé, qui est le nom de leur.
De toute façon, en vrai, il peut tout se passer parce que quand tu sais que dans Grand Budapest Hôtel, c'est de base juste la journée d'un maître hôtelier et qu'en fait, ça finit en évasion de prison,
de recherche de tableaux,
en course-poursuite, voilà.
Dans la neige, sur luge en plus.
Ouais, c'est clair que je pense qu'on n'est pas prêt en vrai, on ne sait pas ce qui va se passer.
Non, mais ça a l'air ultra. C'est fourmillant, c'est loufoque, en fait. Ouais, c'est fourmillant de plein de choses. On va terminer la BA parce que oui, bon, on a passé le cap des récits là. Il y a des fusillades, il y a un amour naissant, voilà, c'est
des murs qui explosent.
Il y a un super plan avec des flics qui pètent des murs.
Ouais. Ouais, et puis voilà, ça termine justement un peu comme ça cette BA. Donc on a aussi toute la partie casting, hein, avec une police d'écriture en point qui s'apparente un peu à la police Mrs. Onion, mais ça n'a
bien
absolument
sûr
rien à
Mrs.
voir.
Mrs. Onion.
Mrs. Onion. Ouais.
Madame Oignon.
Oui, c'est ça.
T'es spécialiste de ta fonte.
Mais c'est pas ça. Du coup,
une adepte de la fistinière.
Voilà, le casting: Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Lina Koudry, Stephen Park et Bill Murray. Et aussi Lee Schreiber, Elizabeth Moss, Guillaume Gallienne, Edward Norton, Jason Schwartzman, William Defoe, Tony Revolori, Louis Smith, Rupert Friend, Saoirse Ronan, Audrey Winkler, Christophe Valls, Bob Balaban, Cécile de France, Hippolyte Girardot et Angelica Houston.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on voit William Defoe dans la BA, mais très, très succinctement,
oui.
Il est dans une, dans une cage.
Là, il mange la bouffe de Stephen Park, là, du cuisinier.
Ouais, mais il est dans une cage.
Ouais, il a l'air.
Et oui, justement, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que tu as l'impression que ce cuisinier, qui est peut-être commissaire, ou en tout cas qui fait à bouffer pour le commissaire, et ben, il teste les plats aussi sur les prisonniers.
Mais il y a un truc, est-ce que le prisonnier serait pas, enfin est-ce que le cuisinier serait pas aussi un prisonnier?
Ouais, bah, je sais pas
au final. Est-ce que cette prison justement, on verrait pas les trois personnages?
Tout se passe dans une prison.
Chaque segment.
Et tu vois, on râlait 2,2%, mais on n'en sait rien.
Non, c'est rien. Non, parce que...
Il nous reste 98.
Comme quoi, il est bien foutu. Et évidemment, voilà, cette BA qui va se terminer sur deux petites scènes, hein, la scène cartoonesque de l'infiltration des flics, qui est putain bien foutu, et tu te demandes, ça c'est un one shot en fait.
Ouais, génial. La
parce
scène.
Que ça casse des murs des deux côtés. Le plan est ouf, le plan est carré, le plan est esthétique. Ça, on parle de Wes Anderson, hein, évidemment. Tout ça, vous le savez, vous l'avez bien assimilé. Et puis la dernière scène, hein, qui termine sur un petit rire. Petit rire, si on veut, un petit rire à la Wes Anderson, ultra cynique. Le petit qui se fait virer, là.
Parce que
il a l'air d'interrompre une réunion ou quoi. Il vient juste dire ça passe en presse là dans une heure. Et Bill Murray qui lui dit t'es viré.
You're fired.
Et je trouve que tu vois, ce plan-là, c'est la définition même de Wes Anderson, quoi. Mm. C'est ce moment où, quand lui dit ne pleure pas et que t'as juste un petit panneau vers le haut, là, en mode paf, no crying. Et tu dis, ça, c'est trop Wes Anderson qui va, j'ai pas mon mot.
Troller son personnage.
Non, c'est même pas qu'il va troller, c'est qu'il va concrétiser. Enfin, il va te montrer à l'image exactement ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Et je sais pas comment définir son style, mais il a vraiment un style de fou, quoi.
Je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment, faudrait inventer un mot parce que ça n'appartient qu'à lui, quoi. Ce genre de.
Andersonien.
C'est voilà. Andersonien, n'est-ce pas?
La caméra fixe qui bouge et qui fait juste un panneau net et précis vers le haut.
Oui, le travelling qui te montre une info que t'avais pas juste avant, mais qui concrétise le propos du personnage.
Le titre du film qui arrive en conclusion de fin de BA, alors un titre qui est présenté comme une couve de Mac, je sais pas, vous avez fait pause sur le titre, non? Moi je me suis intéressé aux petits détails, donc le titre il est présenté comme une couve de journal en fait, c'est la 149e série, c'est le numéro 12, il coûte 200 anciens francs, c'est écrit en tout petit, en France, du coup 2,50 francs suisses. je sais pas ce que ça vaut, et 34 francs belges. Voilà.
Tu dis ça au hasard, je sais.
T'as le souci du détail du mec, quoi.
Ouais, ouais. Donc, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun. Donc, Kansas Evening Sun, pour moi, c'est le journal américain.
Je suis d'accord.
Je pense que le French Dispatch est comment dire, mandaté par le Kansas Evening Sun pour enquêter un peu sur ce qui se passe en France, quoi. Tout ce qui est côté artistique, justice et autres révoltes jeunesse. Un truc comme ça, et voilà, le 27 octobre. Et c'est la fin de la BA.
C'est dense.
Là, c'est dense, il y a plein de trucs.
Il y a beaucoup de choses dans cette BA.
Voilà, on a essayé, j'ai essayé de faire en sorte de tracer, mais c'est compliqué. On a, j'ai envie d'en parler
aussi,
longtemps.
On n'est pas revenu sur la forme, mais c'est vrai que du coup, il y a une alternance entre images en couleur et images en noir et blanc. Et nous, on a déjà une petite théorie qui consiste à dire que peut-être ce qui est en noir et blanc et ce qui est écrit sur le papier du journal, ce qui est le contenu des articles.
Ouais.
Donc romancé par les journalistes, et ce qui est en couleur et ce qui se passe dans la vraie vie.
L'enquête, tu veux dire un peu l'enquête journalistique.
Ouais.
Plus
la manière dont les faits sont relatés, en fait, quand ils sont écrits dans un papier, quoi.
Ouais, parce qu'on passe du format carré au format 16/9, à d'autres formats, à d'autres couleurs, à d'autres mêmes époques, j'ai l'impression.
Ce qui est perturbant, c'est qu'en plus, le changement de format, il n'a pas forcément corrélé à la couleur ou au noir et blanc. Donc, non, mais c'est vrai.
T'imagines, il l'a fait au hasard. Allez.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que tu vois, c'est bizarre parce que t'as des moments où les plans carrés sont noir et blanc, après ils sont en scope et après les plans couleurs passent en carré. Enfin, on voit pas.
Il n'y a pas de logique dans la BA, il n'y a pas de logique.
Il y en aura certainement une, hein, pas de Wes Anderson, mais c'est vrai que la BA du coup nous présente vraiment ça comme une espèce de patchwork, le dispatchwork. Oh, titre.
Oh, French Dispatchwork.
Ouais,
merci les internautes d'avoir soumis ce titre.
Ne lis pas les commentaires de
mais
autres.
Là, la question que j'ai tout de suite, les questions que j'ai tout de suite en vous poser, c'est parce qu'on va essayer de réunir un peu le cinéma, ce que représente pour vous le cinéma Wes Anderson, parce que c'est clairement quelque chose de très atypique, quoi. C'est pas un cinéma qu'on pourrait voir ailleurs. C'est vraiment un truc que tu vois un plan, juste un plan, tu sais que c'est du Wes Anderson. Donc je voulais juste savoir en un mot si vous deviez qualifier ce réal, son cinéma, et puis si vous avez envie de voir ce film avec cette BA. Clémence.
En un mot.
Un mot, ouais. Bah après, c'est à toi de voir.
En un mot, délice.
Un vrai, un véritable.
Pour moi, vraiment, tous les films de Wes Anderson sont un pur délice, à la fois parce qu'ils sont extrêmement bien exécutés. J'ai beaucoup de mal à voir des défauts en général, à la fois dans son écriture, dans sa mise en scène, dans le jeu des acteurs, sa direction. Je suis peut-être pas objective, mais pour moi, c'est vraiment un des cinéastes les plus perfectionnistes et les plus, en plus, intéressants, quoi. C'est pas froid. C'est toujours très, très émouvant. Et un délice aussi, parce que justement, ça me procure des émotions, mais vraiment de bien-être. Ça m'envoie des endorphines, son cinéma. Pour exemple, Fantastic Mr. Fox, c'est vraiment le film que je regarde et que je re-regarde à chaque fois que je ne sais pas quoi regarder un dimanche ou un jour de la semaine où j'ai envie de meubler mon temps.
Moi, c'est Lilo Chien, mais chacun son truc.
Bah, Lilo Chien, non, mais il est trop récent pour que je sois encore dans cet état-là avec. Donc, je l'ai juste revu une ou deux fois, mais c'est pareil. C'est pareil.
Ouais.
C'est des vrais bonbons à regarder. Des super histoires.
Est-ce que ça donne envie de voir du coup The French Dispatch cette
année? Oui, énormément. De toute façon, je suis hyper curieuse parce que je pense que ça va être très tenu, la structure du truc est toute pensée et que là, comme tu disais, c'est finalement un peu un patchwork qu'on nous montre dans la bande-annonce. Tout est un peu déstructuré, mais en fait, ça va être très très logique et tenu, tout en nous surprenant. Et ce qui m'avait vraiment impressionné dans son précédent, donc L'île aux chiens, c'est qu'il avait passé, je trouve, un gap de complexité encore dans tout ce qui mettait à l'image, dans le rythme. Je veux dire, moi, quand j'ai vu L'île aux chiens au cinéma, j'avais presque l'impression, une frustration presque dans le plaisir, où je me disais, mais putain, il faudrait ralentir, là, j'ai pas le temps de tout voir, c'est tellement riche. C'est tellement riche dans les dialogues, quand ils sont dits, dans l'image, tous les détails. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est encore sur cette même ligne avec The French Dispatch.
C'est fou comment ça y ressemble, alors que pourtant, c'est un film. Enfin, c'est du live, quoi. Mais on ressent déjà, on aura l'occasion d'en reparler à mon avis. Mais oui, est-ce que du coup ça s'annonce comme un petit délice, cette BA, ce film avec cette BA pour Clémence. Clément ?
Oui, alors moi mon mot c'était singularité. Je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui est unique. C'est-à-dire que tu vois un plan de lui, tu sais que c'est lui. Ça c'est quand même pas courant. Et il a un mélange de maîtrise absolue sur le plan formel et en même temps de folie, c'est-à-dire que tu ne sais jamais ce qui va se passer. dans ce film. Tu sais, c'est totalement imprévisible. Et en même temps, c'est très, très cadré, très, très symétrique. Ça a été analysé des centaines de fois, donc on ne va pas revenir là-dessus sur la forme. Mais je trouve que c'est un formaliste formidable, doublé d'un génie de l'écriture et du sens de la surprise. Moi, je n'ai pas vu tous ces films. Là, je pense que je n'ai pas vu autant de films que vous, de lui. Mais... c'est quelqu'un qui est, je trouve, vraiment un des réalisateurs les plus intéressants à suivre. Et sincèrement, je comprends rien à la bande-annonce, pour être complètement honnête. Je comprends vraiment rien, mais en fait, je m'en fous. C'est-à-dire qu'il peut me raconter n'importe quoi. J'ai juste envie de m'asseoir dans une salle et de regarder les plans qu'il va faire et les acteurs qu'il va diriger. Et ça m'intéresse. Voilà. Donc, je n'ai pas plus d'attente que ça, si ce n'est que ça va sûrement être un film qui va très bien s'ancrer dans son univers et dans sa filmographie, et j'ai juste hâte de le voir. Quoi.
Ah bah là, t'as tout, hein, t'as tout Wes Anderson rien que dans cette BA.
C'est ça.
En scope, en carré, en animation, t'as vraiment la compile, le best-of. Et toi, Kevin, cette BA, Wes Anderson,
mon mot.
Comme tu veux, dans l'ordre que tu veux.
Je vais dire mon mot. Moi, mon... Dans un moment, moi, c'était mesure, et c'était mesure dans tous les sens. J'avais toujours, enfin, je pensais d'abord au sens musical, et Clémence en a un peu parlé au niveau du rythme. C'est que je trouve que Wes Anderson, c'est vraiment des films, tu peux claquer des doigts en le regardant. C'est que tout est musicalement, tout est carré quoi. La manière dont la narration se fait, la manière dont les dialogues s'enchaînent, la manière dont les plans s'enchaînent, et la manière aussi dont les plans sont faits, comment la symétrie est importante pour lui, comment chaque mouvement de caméra est calculé. Et c'est pas non plus de la réal calculée froide. Chaque fois, il y a une intention, une émotion, et enfin un propos qui est là, une volonté artistique de faire passer une émotion. Et il est un peu unique en fait dans le paysage, je trouve. Wes Anderson, c'est un peu le seul qui fait ça aujourd'hui. Et je sais pas, il a vraiment trouvé sa singularité à partir de choses qui finalement sont un peu qu'on pourrait penser un peu évidente. Pour faire une bonne histoire, il faut qu'elle soit bien rythmée. Pour faire des beaux plans, il faut qu'ils soient bien cadrés, etc. Mais lui, il a vraiment réussi à mettre son sa personnalité, même en termes de couleurs, etc. Tout raconte une histoire. Tu peux juste arrêter une séquence de Wes Anderson, regarder un plan, le plan raconte déjà une histoire. Il a à la fois, pour moi, il a compris l'essence même du cinéma, c'est-à-dire assembler plusieurs arts différents, à la fois l'art pictural, la musique, l'art plastique. Il y a tout en fait dans Wes Anderson, et je trouve ça assez impressionnant, surtout que c'est quand même quelqu'un qui est plutôt jeune, je trouve, pas un réal. Il a
une
petite cinquantaine d'années. Il a fait que 10 films, et il est déjà à un niveau de maîtrise qui est assez impressionnant, je trouve.
Ça rejoint un peu ce que j'ai envie de raconter sur Wes Anderson aussi, parce que moi, mon mot à moi, c'était complet, parce que pour moi, c'est un artiste complet en fait. Comme tu le dis, c'est vraiment le mec, il a réussi à prendre le cinéma, à le retourner un peu dans tous les sens, et il cochait toutes les cases en fait, parce que le cinéma, c'est simplement, comment dire, l'addition, la somme de plusieurs arts qui mis ensemble forment un tout cohérent, tu vois. Enfin, si c'est bien fait, juste, après ça dépend de la vie de chacun, mais Wes Anderson, c'est un mec, il n'y a rien qui dépasse, quoi. Il n'y a vraiment rien qui dépasse. Ça se ressent dans la symétrie de ses plans qui sont fabuleux. Hein. Là, dans cette BA, moi, je mettais pause pour travailler un peu la BA, mais chaque plan était un tableau, quoi. C'est absolument incroyable parce qu'il y a une direction artistique qui est complètement folle dans ses films. Alors, il est très, très bien entouré. Hein. La direction artistique ou au décor, ça change un peu, mais tu as un mec qui s'appelle Adam Stockhausen qui le suit depuis un moment. Et même au costume, enfin, il a une espèce de petite famille comme ça qui le suit depuis Darjeeling, famille Tenenbaum, enfin, plus même Darjeeling, où un peu il a eu il a commencé à être Wes Anderson, quoi. Vraiment le mec qui faisait ses films carrés, symétriques, il n'y a rien qui dépasse, tout est beau, tout est propre. On l'appelle d'ailleurs le cinéaste du beau, tu vois, vraiment, parce que c'est clairement beau. Et la musique, à chaque fois, elle est triée sur le volet. Ces soundtracks de musique existante ou composée avec Alexandre Desplat, ça fait toujours, toujours, toujours tilt, quoi. Ça marche incroyablement bien. Et puis, l'aura qu'il donne à ces personnages, quoi, qui sont évidemment à base de beaucoup d'éléments biographiques. Parce que quand tu connais un peu la vie de Wes Anderson, tu te dis, il n'a pas une vie de famille forcément facile. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et ça se ressent beaucoup dans ses films, hein. Tous ces personnages... Toutes ces histoires, il y a des problèmes de famille. Hein.
Souvent eu un sujet autour du père. Je lisais ça dans le Rockyrama qui lui est dédié.
Voilà. Notamment avec le père, un peu comme Spielberg aussi, forcément une représentation du père. Et ça se ressent vachement. Hein. Et chez un artiste, tu viens puiser là. Et je trouve que c'est un mec qui a fait de sa passion un véritable art qui aujourd'hui est un peu, comment on pourrait dire, peut-être d'autres films que tu peux voir inspirés de lui, que c'est des Anderson-like, quoi.
Il a
créé un vrai genre, quoi, ouais. je trouve. Enfin, c'est vrai, il y a beaucoup de copies. Après, tu peux dire, bah, avant lui, il y avait peut-être Jeunet, tu vois, Jean-Pierre Jeunet, qui est aussi un gros technicien de l'image, qui aime que ce soit tout très bien à sa place et tout, même dans la photo ou quoi. Il y en a certainement
Gondry,
d'autres. Il y en a encore certainement d'autres que j'oublie, évidemment, parce que l'art, de toute façon, c'est éternelles inspirations. Ce n'est que ça. Et donc, c'est pour ça que pour moi, bah, c'est un artiste complet et que j'ai énormément envie de voir de French Dispatch.
Juste pour ajouter un dernier mot, il faut quand même dire qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas spécialement le cinéma de Wes Anderson et qui restent extérieurs et qui ont des arguments qui sont de dire, par exemple, que justement, ce côté très symétrique et très artificiel et énervant, que ça se ressemble tout le temps. Et en effet, les portraits de personnages sont assez semblables souvent. Et puis, il y a ce côté... c'est pas tant le choix de ses acteurs, mais comment il les fait jouer. Ils ont souvent ce côté très nonchalant, très mélancolique, et qui peut être paru comme mou par des gens qui n'accrochent pas. Mais là où je le trouve très fort, moi, non objectivement, c'est que, comme vous disiez, il arrive avec des personnages potentiellement mous et mélancoliques et dépressifs, avec des plans très cadrés et très figés, à apporter une vraie justesse sur ce que sont les relations, ce qu'est la vie,
Et c'est ça, une vraie émotion. On pourrait croire justement que ces espèces de robots,
c'est jamais froid,
qui sont ces personnages, bah, ils sont froids de premier abord, mais le tout, l'image, le son, enfin tout mis, le cinéma, quoi. Une fois que tout est bien agencé, bah oui, bah les émotions, c'est à l'intérieur de toi.
Pour moi, le personnage qui incarne le mieux ça dans son cinéma, c'est Margot Tannenbaum dans La famille Tannenbaum, qui paraît super dépressive et très froide. Elle parle presque pas. Et en fait, c'est l'artiste de la famille. Elle bouillonne à l'intérieur. C'est celle qui vit les choses les plus intenses et qui a une histoire d'amour incroyable dans le film. Et voilà. Et en fait, ça ne ressort pas. Elle ne le montre pas, mais on le sent.
T'as raison, ils sont délicieux, ces films.
Et puis son dernier film, c'est quand même L'île aux chiens, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de ces dernières années, quoi. C'est un film, je m'en lasse pas.
Tu t'en parles, j'ai des frissons. Oscar du meilleur film d'animation.
Le rythme de ce film est...
Le mec est complet. Alors, tu sentais déjà dans ses anciens films. Quand je dis ancien, c'est pas non plus le mec date pas d'avant, quoi. Genre il a commencé à percer vraiment début 2000, mais genre par exemple tu regardes La vie aquatique, il y avait déjà des inspirations. Tu savais que le mec allait forcément finir dans l'animation à un moment, quoi, parce que t'as le requin léopard, ou je sais plus comment il s'appelle, jaguar, panthère, qui est totalement fait en stop motion. Donc tu vois, ça vient d'étonner aussi dans la conception, enfin même tous ces décors, le sous-marin à ce moment-là, ils l'ont vraiment construit. T'as des plans de profil découpés un peu comme dans les livres de physique, chimie,
d'architecture,
de trucs comme ça, où t'as vraiment des plans découpés avec les pièces apparentes et tout. Enfin, il a cette patte là, quoi, de faire réussir à communiquer des espèces de fous de la tête que sont ces personnages dans des endroits ultra étriqués. Et puis ça fait sens. L'intro de Moonrise Kingdom, c'est pas un truc incroyable, quoi, où on voit justement une présentation comme ça, où on passe d'étage en étage de toute la famille.
C'est que des
plateaux,
comme des plateaux de théâtre, mais sauf que tu le fais en mode comme un plan séquence, mais qui passe en coupe dans la maison de pièce en pièce.
Et donc tu sentais qu'il allait arriver à l'animation. Et quand il a sorti Mr. Fox, moi c'était déjà... j'étais en mode, je suis un grand, grand fan d'animation. Hein. Peut-être que ceux qui écoutent l'émission, ils le savent maintenant. Mais si dans une autre vie, je suis certainement animateur, parce que c'est vraiment une grosse, grosse passion. J'aurais aimé l'être. Voilà. Mais L'île aux chiens est devenu certainement, dès les premières minutes, un de mes films préférés. Mais vraiment, vraiment, il y a des réalisateurs qui, c'est rare que ça arrive. Quand tu regardes un film et dès les premières minutes, tu sais que tu vas aimer le film et tu sais que c'est encore un chef-d'œuvre et tu sais que c'est son chef-d'œuvre. Et pour moi, c'est L'île aux chiens. Et pour vous, ce serait quoi votre préféré de Wes Anderson?
Moi, c'est celui-là.
L'île aux chiens aussi. Ouais.
Bon. Et du coup, j'ai peur que The French Dispatch soit en dessous.
Ah, mais il peut pas toujours faire mieux après. Enfin, si le mec réussit à faire mieux que L'île aux chiens. Toi, c'est quoi?
Moi, c'est La famille Tannenbaum.
J'en étais sûr.
En fait, je l'ai découvert avec celui-là, sans connaître du tout son cinéma, en mode avec ma mère et ma sœur, on regardait tout le temps des comédies familiales, romantiques, et on a trouvé celui-là sans savoir que ça allait être aussi décalé. Et on a été très désarçonnés les premières minutes du film, en mode c'est quoi ce ton? Pourquoi les dialogues, ils sont tout le temps à côté? Pourquoi ils se parlent pas entre eux? Et en même temps, c'est drôle.
J'ai une anecdote
tout.
Sur ça, moi aussi.
Voilà, et au final, on a quand même été au bout du film, et quand on en est sorti, on était hyper touchés, et je l'avais gardé dans ma mémoire comme un super bon film de famille.
On n'a pas la même famille. Et toi, Kevin, si t'avais un film préféré?
Franchement, c'est une question assez difficile, parce que je crois que je les aime tous vraiment, à part Darjeeling Limited, que je trouve un peu plus en dessous, mais Bah, pour changer, j'ai envie de dire le Grand Budapest Hotel, parce qu'il m'a fait vraiment une grande impression au ciné. Et je sais pas, je trouve que vraiment, que ça a l'air d'être un peu la même chose avec French Dispatch, mais j'ai l'impression que c'est un film qui regroupe tout ce qui fait Wes Anderson.
Bah, c'est celui qui a le mieux marché, en tout cas pour lui, le rayonnement international de Grand Budapest Hotel, hormis les Oscars, tout ça, il a été pas mal nominé, pas mal récompensé, mais c'est celui qui a le mieux marché, qui a rapporté le plus. Il fait pas des films extrêmement chers en plus, Wes Anderson, hein, ça dépasse jamais les 100 millions.
Bah, ça coûte plus cher en acteur, à mon avis.
C'est quand même énorme.
non, mais je veux dire, quand tu vois qu'il y a des bouses produites à 200 millions de dollars. Alors que lui.
Mais par contre, c'est vrai qu'il a toujours les plus gros castings, je crois, qu'il puisse y avoir.
C'est abusé.
Rien que le casting de celui-là.
Alors, c'est un peu ma frayeur, enfin ma crainte dans The French Dispatch, c'est qu'il y a tellement d'acteurs que je vois pas comment il va pouvoir, en 1h45, je crois, tous les employés bien, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde et j'ai peur qu'il y en ait qui fassent un peu tapisserie, quoi.
Voilà. Bah après, c'était le cas dans pas mal de ses films. C'est que ses seconds rôles, c'est toujours des stars.
Ouais.
Quoi qu'il arrive.
Ça s'annonce assez ouf, quand même. Hein. Ça s'annonce assez grand et on espère qu'on va pas être déçus. Enfin, ça, c'est nos attentes, les amis. Un bon petit débat sur un des plus gros réalisateurs de sa génération. Mais qu'en pensent les internautes, hein? Parce que nous, on aime, mais peut-être pas tout le monde. Allez, c'est parti pour le comme si, comme
ça.
J'attendais.
Comme si, comme ça. Comme si, comme si, comme ça.
Les commentaires des internets.
Comme si, comme si, comme ça.
Les commentaires des internets.
Clémence, les internets qu'ont-ils dit? Dis-nous ce que les gens ont commenté sur la BA de French Dispatch.
Je vais vous le dire. Et je vais commencer par les gens qui n'aiment pas Wes Anderson.
Il en existe. Non,
mais parce qu'il faut finir après par ceux qui aiment bien, vu que pas laisser sur une touche amère.
Le mal ne peut gagner.
Le mal ne peut gagner.
Que disent les cons?
Bon, alors il y a des gens qui n'aiment pas spécialement les acteurs et leur manière de jouer, comme je le disais un peu plus tôt, comme Faisal Jagger qui a écrit Bill Murray, Francis McDormand, Timothée Chalamet, Léa Seydoux et Liv Schreiber. Tous des acteurs que j'ai horreur. Je les trouve mous. Ce film n'est évidemment pas pour moi.
Après, c'est un
style
particulier.
Déjà, on dit pas des acteurs que j'ai horreur.
Des acteurs que j'ai horreur.
Hein?
Non, mais oui, mais après, je
m'inspire
comprendre.
De l'horreur.
En vrai, je peux comprendre parce que du coup, ces gens-là, c'est un peu ma famille quand moi j'avais loué Tenenbaum, tu vois. Donc forcément, tu leur mets ça. C'est quoi ton ovni de film, quoi? C'est
Louis 25 n'aime pas non plus.
Le roi?
Oui, le roi Louis 25. Il n'aime pas non plus le cinéma de Wes Anderson.
La lignée n'est pas morte. En Duril.
Et non, il résiste
au forger.
Au sommet de la plus haute tour de Paris. Ils sont là. Et le Louis 25 s'est exprimé.
Il a prononcé sa sentence. Oh! Que c'est moche! Encore un film de Wes Anderson qui a l'air d'un gribouillage d'enfants demeurés, avec des blagues affreusement débiles et des acteurs aussi expressifs que des merles en frites.
Là, c'est vraiment un troll quand même, c'est pas possible.
Là, dire que c'est moche, c'est vraiment avoir de la merde dans les yeux, je suis désolé. Tu peux ne pas aimer, mais tu peux pas dire que les plans sont moches.
Franchement, si ton gosse il gribouille comme ça, mon gars, c'est écrit au Beaux-Arts tout de suite. Hein.
Frère, la direction artistique, de la manière. Même moi qui fais un peu du dessin à côté, qui essaye de faire en sorte que les couleurs vont bien ensemble. J'arriverai jamais à ce qu'est capable de faire un film de Wes Anderson, quoi. Je veux dire, mettre du jaune sur du jaune et puis que ça sorte bien, bravo.
Mais c'est pas les mêmes jaunes, mon gars.
Mais oui, mais non,
c'est
mais
ça,
mais
le truc.
Franchement, je suis admiratif. Donc non, c'est pas beau.
Ok,
non.
J'ai un dernier avis un peu négatif, mais que je trouve pas inintéressant malgré tout, qui est celui d'Ameline Bombard, qui dit « Je n'ai absolument rien compris. Ce film n'a ni queue ni tête. Un film très fermé pour un public bien ciblé. » Alors, je trouve que c'est pas faux.
Alors,
quelque
ça, c'est
part,
pas
quand
faux.
Même, un public bien ciblé, c'est vrai.
Ouais, vraiment, si tu connais pas son univers, ça, c'est vraiment incompréhensible.
Après, moi, je trouve qu'elle a totalement tort parce qu'elle dit que c'est un film qui n'a ni queue ni tête, elle l'a pas vu. Donc, déjà, on se calme.
C'est une BA qui a ni queue ni tête. Si
la BA n'a
peut-être ni
queue ni
tête. Ok.
D'accord,
mais dis les bons mots, s'il te plaît.
Mais alors, il y a quand même des gens qui ne comprennent rien non plus, mais qui s'en foutent. Un peu comme nous. Par exemple, Gigi qui dit « Alors, j'aime certains acteurs, ok, mais j'ai rien compris !» Ou alors « Ça n'a pas de sens !» Ça n'a pas de sens. Ah, j'ai compris ce pseudo en le lisant. Ça n'a pas de sens. Qui a dit « J'ai rien compris !»
Ah, c'est ça, son nom, c'est « Ça n'a
pas de sens ». C'est « Ça n'a plus loin à de sens ».
Ah, génial.
Ah, c'est pas mal.
Qui dit « J'ai rien compris, mais j'aime l'atmosphère qui se dégage de cette bande-annonce
». Exactement pareil.
Si ça peut l'emmener en salle de ciné et lui faire découvrir un film ouf, ce serait cool.
Mila Mila aussi. J'ai rien compris, mais j'adore. Et je sais déjà que ça va être un de mes films préférés.
Ah ouais.
Bah, elle exagère un peu.
Elle parle avec le SDA de ouf. Hein.
Mon deuxième film préféré, c'est Tenet. J'adore les films, on comprend rien. Hein. C'est du génie.
Je suis sûr que ça va être bien.
Et enfin, j'ai un dernier commentaire de Samuel Sainte-Marie-Gauthier.
Oh, 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 oh. Pardonnez-nous. Attends, oh, mon seigneur.
Vu les journalistes à The French Dispatch, hein.
Elle a connu Louis XXV.
Sainte-Marie-Gauthier.
Samuel Sainte-Marie-Gauthier qui écrit « Il est temps que ça sorte, JPP, les Angoumoisins, qui ne connaissaient pas Anderson avant. »
Ah ok, donc ah, il est habitant
d'Angoulême. C'est une référence.
Oui, parce qu'on n'a pas dit que le film est tourné à
Angoulême. Le film a été tourné à Angoulême.
Allez, on fait une petite dédicace
et
à
les
Erwan,
habitants d'Angoulême sont les Angoumoisins.
Voilà, apparemment, voilà. Ça a été tourné devant la maison de, familiale, j'ai bien compris, d'Erwan.
D'Erwan,
qui ouais. Fait partie de Feta Béa, il en a déjà parlé. Mais ouais, bah, oui,
mais
les Angoumoisins.
Wes Anderson est le cousin de... Pas du tout.
Non, mais... Il est né au Texas, je sais pas dans quoi tu t'embarques.
Quand même marrant, il aurait pu tourner ailleurs qu'à Angoulême.
Mais pourquoi?
Pourquoi? Bonne question, je ne l'ai pas.
Et bon, vous lui demandez.
Pas la réponse.
Hello.
Pourquoi Angoulême?
Christopher Nolan a bien tourné à Dunkerque.
Mais il a peut-être fait ça pour capter
pourquoi
le.
Pourquoi pas Ridley Scott à Alençon? Eh bien, ça s'est passé aussi.
Il a peut-être fait ça pour capter le public angoumoisin.
Tout à fait, qui est un public assidu.
D'ailleurs, attends, mais petite parenthèse.
Et qui
n'est
pas un public au goût moisi.
Oh pas...
Non, mais petite parenthèse. Est-ce que la France ne serait pas à la mode en ce moment?
Eh, hey, mais tu détectes une tendance.
Est-ce qu'il y a la France qui ne serait pas à la mode?
Est-ce que la French Touch.
Est-ce que les JO 2024 ont engagé une
est-ce
mode?
Est-ce que Anne Hidalgo serait pas un peu trop flex? Eh ouais, les gars, attendez.
Hein, à quand Michael Bay en Bretagne?
Putain, il va tout faire sauter.
Transformers armorique, mon gars.
J'ai des galets dans les rouages. Optimus Prime avec un gros ciré jaune.
Eh ben oui, angoumoisin, angoumoisienne. Je
sais pas comment on dit.
Eh ben merci d'avoir prêté vos terres à Wes Anderson et à son génie. Merci Clémence aussi à ton génie pour le.
Non mais à noter quand même une petite anecdote comme ça au passage, c'est que Timothée Chalamet a répété ses chorégraphies de combat pour Dune à Angoulême et je trouve ça marrant. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est venu pour l'entraîner pour les combats de Dune à Angoulême et voilà, je trouve que c'est drôle.
Ouais, c'est dingue.
C'est cocasse.
C'est fou.
C'est fou. Angoulême, pendant un moment, c'était Nimp.
C'était The Place to Be.
Festival de la BD aussi. Hein.
Il y a dû avoir
oui,
toutes les
c'est
stars.
Vrai. Et d'ailleurs, et ça fait sens parce que c'est vraiment très BD-esque pour le coup, Wes Anderson, je trouve. Vous trouvez pas en plus que dans l'affiche, il y a un peu une aura à la Tintin.
Complètement.
À la Tom Tom et Nana aussi, je trouve.
Oula. Ou non, Tom Tom et Nana, non, s'il te plaît.
Si, je vous demande.
Là, tu t'aventures.
Non, je vous demande. Ah, parce que vous n'êtes pas des connaisseurs.
On n'est pas chez les Bidochons, là.
J'aime
pas les Bidochons.
Les Bidochons. Tu vois, tu ne connais pas, vous ne savez rien.
Comment ils s'appellent?
J'ai lu tous les Tom Tom et Nana et je peux vous assurer.
Les Dubouchons. On n'est pas chez les Dubouchons.
Je suis désolé. Une BD où c'est écrit en attaché dans les bulles, c'est nul.
Eh ben non, c'est un style. Et c'est un style très Wes Andersonien avant même que Wes Anderson soit né.
Est-ce que tu as lu tous les tomes de Tom Tom?
On va passer à la suite.
Allez,
alors.
J'aime quand comment tu conclus les choses.
Non, mais vous verrez. Moi, je trouve que l'affiche. Et vous irez voir le clip de la reprise de Christophe. C'est très, très Tom Tom et Nana. Hein. Alors là, je suis pas d'accord. Et pour ça, je passe à la rubrique suivante sans transition. Je m'en bats les couilles.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Fais ton titre. Oui, j'ai transitionné comme ça, sans crier gare. Gare.
La gare d'Angoulême.
C'est trop dur, tu sais que c'est nul et tu le dis quand même, putain. Ouais. Alors le fais ton titre, après nos attentes sur le film, il est temps de renommer le film de la semaine de French Dispatch. Nous, les anglicismes, ça nous débecte. Qu'avez-vous comme titre, les amis? Je vous écoute.
Vas-y, j'y vais parce que les miens, ils sont pas ouf. je m'impose comme
d'accord.
Ça. Alors j'ai un titre parce que donc ils ont tourné à Angoulême et à Angoulême c'est pas connu mais il y a quand même des cités et du coup mon titre c'est West ma gueule.
Oh putain.
Non.
À Angoulême il y a quand même des cités. Je suis sûr qu'il est parti chercher.
Non c'est faux.
Cité d'Angoulême. Que t'es parti de West et que tu cherchais comment lui
ma gueule.
Dans la cité d'Angoulême.
Voilà. Ensuite j'ai un deuxième titre c'est Engouement pour Angoulême.
Oui, mais bon, on va arrêter de tourner autour d'Angoulême.
T'étais resté sur Angoulême.
Ouais, j'ai un côté un peu
The
comme
French
ça.
Dispatch, autour d'Angoulême.
Exactement, tu crois pas si bien dire ma catchphrase, donc The French Dispatch qui veut dire la dépêche française. Et donc ma catchphrase, c'est déjà dit film, Wes se dépêche.
Oui.
Oui,
c'est nul, mais ça
c'est...
passe.
Non, j'aime bien.
Elle peut être utilisée avec un autre
ça
titre.
Ça peut.
C'est capillotracté, mais j'aime bien.
Ça peut marcher.
Voilà. Après, c'est tout ce que j'avais.
Faut connaître le personnage aussi, c'est pour ça qu'on aime. Hein. Je parle de Clément. Vous savez pas où j'allais.
Il est un peu con, mais on l'aime bien.
Kevin ou Clémence, Clémence ou Kevin, bah, je vais donner mes titres.
Ok.
Bah voilà.
Non, je donne mes titres. Moi, j'avais pour The French Dispatch, j'avais, bah oui, bah, tu m'as un peu spoilé, mais j'avais juste traduit le titre, la dépêche française. Je trouvais ça marrant d'appeler ça la
aucun
dépêche française.
Déprimant. Aucun
tu t'es
effort.
Pas fait chier là-dessus.
Non, je me suis pas fait chier. Pas puis mais attendez, mais c'est très dur aussi. J'ai trouvé ce fait en titre très dur.
Ouais,
non,
c'est
pas
vrai.
Vous.
C'est vrai que c'est dur.
Et donc ensuite, j'ai pas tortue du coup pour chier droit, j'ai simplement regardé la filmo de Wes Anderson et puis je me suis dit sur quoi j'avais The Journal Kingdom. Voilà, pas dingo. J'ai voulu parodier la vie aquatique en appelant ça la vie médiatique.
Ah, ça j'aime bien. Oui.
Ou bien j'avais aussi à bord du Anderson's Limited. Ou la famille Anderson parce que il réutilise
ouais, voilà, et bah, oh,
y a tout le monde dans la oui. technique y a
The Grand Anderson Hotel ouais c'est bon quoi. ok
Lilo Anderson
Lilo Anderson Lilo West
bon au bout d'un moment faut arrêter
Anderson mort
oh là là.
Bottle Anderson,
oh,
Anderson
y a un le journaliste.
Là, j'aimais bien la vie médiatique.
La vie médiatique,
parce que
j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Et je le note.
C'est pas mal.
Tu peux le mettre dans le dernier carré.
Clémence, tes titres.
J'en ai un. Parce que, ça, en effet, c'était pas facile. Et je m'en vais vous le dire avec mon meilleur accent anglais. The Strange Big Cast.
Oh putain. The Stranger Things. Non, rien à voir.
Non, l'étrange non. Gros casting.
Bah, juste parce que strange, parce qu'on comprend pas trop, tu vois, qui sont ces personnages et tout. Et puis c'est un énorme casting.
Ah, je croyais
casting.
Que c'était une parodie d'un truc. Je
voulais non. Big cast, en fait, j'ai juste cherché que... sonorité The French Dispatch, The Strange Big Cast.
Ah,
j'aime bien.
Là,
ouais,
voilà.
Il y a une homo sonorité.
Après The French Dispatch, The Strange Discourse.
Il a modifié ça.
Ok.
Il le dit même pas
avec
bien.
Il a noté ce French Discourse.
Rien à voir. Big cast.
En vrai, sur
j'ai
la
un si mauvais accent que
comment,
ça.
Comment tu dis?
The French Big Cast.
Oui, discours, j'ai bien compris.
J'en ai marre, chaque semaine, je suis ridiculisée.
Mais non, c'est juste que j'ai vraiment rien écrit, en fait.
Mais plains-toi, syndicalise-toi,
j'ai
Clémence.
Même pas
fais quelque chose.
Après, non, mais c'est bien, discours. C'est bien. Dans la sonorité, mais après, voilà, Clémence, elle aime pas quand on rejette ses titres. Donc,
bah, en fait, on les rejette tout le temps.
Mais ils ont qu'à être... Oh j'irai pas au bout de ma
on
phrase.
Est dans la bienveillance ici.
Kevin, tes titres.
On n'est pas dans la bienveillance, on n'a jamais été dans la bienveillance.
C'est vrai, on est vraiment des connards.
On est des connards, on est des loups pour les loups. C'est quoi le truc?
Le loup est un homme pour le loup.
Non, l'homme
non,
est un loup
c'est l'homme
pour l'homme.
Est un homme pour le loup.
Et
bah, non, voilà, c'est le loup bah, est un homme pour le loup.
Bah nous, on est tous des connards pour d'autres connards.
Alors,
dis-nous.
Vous voulez mettre. J'en ai qu'un. J'ai un titre.
Je vais gagner à ce tarif-là.
Voilà. Alors mon titre.
Regarde la posture qu'il a, coude sur la table.
Non, mais je vais sûrement perdre parce que je sais pas s'il est bien.
Vas-y.
C'est déjà, je vous fais un petit peu l'historique.
En 1955.
Le mot titre a été inventé par Ferdinand Titre.
Non, voilà. Non, c'est un titre pour jouer un peu sur le fait que Wes Anderson, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est trop fort avec les couleurs. Et je voulais faire une référence à un autre film de journalisme qui a été fait par Steven Spielberg. Donc mon
Pentagon
titre,
Papers.
C'est Pantone Papers.
Ah oui, mais c'est très subtil.
Pantone.
Pantone
oui, alors
pour
Pantone,
les couleurs
Pantone, c'est des couleurs d'imprimante. C'est
ah,
ça
les couleurs pas. Pantone, c'est des tons directs. C'est-à-dire que d'habitude, quand on imprime avec une imprimante, on mélange quatre couleurs. C'est MJN, cyan, magenta, machin.
What the fuck.
Et sauf que un ton Pantone est un ton direct, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être fait en mélangeant les couleurs primaires.
C'est une couleur pure.
Une couleur pure.
Bienvenue dans Imprimerie. Le
et donc c'est une référence à Pentagon Paper, mais c'est Pantone Paper.
C'est drôle.
Ce qui n'a rien à voir avec le RVB. J'imagine.
RVB, non. RVB, c'est pour les images web.
C'est pour le numérique, évidemment.
C'est pour les images web, grand fou.
J'aime bien. Quels sont tes titres, Romain?
Je l'ai déjà dit.
Ah merde, tu l'as déjà dit.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Papy, retourne te coucher, papy.
Bon, ben j'y retourne, d'accord. Ben je vais me coucher alors, hein, oui.
Et j'avais donné le titre de la semaine qui est La vie médiatique.
Oui, ben c'est bon, t'as gagné là.
Sincèrement, je trouve que c'est le meilleur titre, sans déconner.
C'est pas le plus ouf à chaque
moi,
fois.
Moi, je pense.
Attends, mais on n'a pas eu des internautes qui ont
oui,
joué.
Oui, les
avec
internautes
nous
qui ont joué.
Sur
ah,
les internets.
Alors, laissez-moi vérifier un peu les réseaux sociaux.
Alors, s'il les a pas cités, ça peut dire qu'il les a. Alors, Xavier. Si t'as pas cité, c'est que tu trouves que c'est mauvais.
Couille.
Je suis désolé.
Totalement.
Hein.
Voilà, ben, merci à tous pour le fait-on titre de cette semaine. Ce sera donc La vie médiatique à la place de French bien. Dispatch. Voilà, simplement une petite hommage, petite parodie à la vie aquatique hein, avec le même Bill Murray qui est un ancien film de Wes Anderson. Très hâte de voir The French Dispatch. Voilà, Wes Anderson, j'ai envie d'en parler encore des heures, c'est fou.
Ok,
hein.
Alors bah écoute, il est texan.
C'est excellent ce que tu dis là.
Bon allez, on va dire au revoir un peu.
Allez, salut, bisous. Là, au revoir, Shoshana. Ouais.
Ça se barre en couille. je transpire de. Je transpire de barrage.
Allez, salut Shoshana.
Allez, salut Shoshana. On dit au revoir. On conclut. Bye. Let's go. Pour ce qui était de notre épisode numéro 64, et vous avez remarqué que pour l'épisode 64, on n'a pas fait un spécial alcool, genre en boîte des 64, tu vois.
On a bu des grimes.
Chut. Non mais attendez l'épisode 86, les gars, parce que moi je l'attends avec impatience.
L'épisode 86, à mon avis, sera la saison prochaine, l'épisode 86.
Ouais, hein. Ouais, mais attendez.
Oh putain, on aurait pu, allez, on y a pensé quand même, mais non. Non, ça a été un épisode très sobre, avec simplement notre passion hein, comme guide, voilà. Évidemment, pour Wes Anderson.
Et le sérieux pour Boussole.
Putain, je chiale, putain.
Non, mais très très hâte de voir le film, encore une fois. Hein. Ça fait un an que j'attends, j'en peux déjà plus. Tout a l'air super ouf. Et pour la semaine prochaine, il y a un lien.
Ça a pas l'air super ouf.
Il y a un lien, il y a un lien entre le film d'aujourd'hui et la BA qu'on se fera la semaine prochaine.
Ah bon, mais quel est ce lien?
C'est quoi le lien?
Ah, ils ont eu des Léa Oscars.
Cédou.
Non, pas Léa Seydoux.
Est-ce que c'est Cannes?
Ce n'est pas Cannes, non.
Ils ont eu des Oscars.
Non.
Est-ce que
si, tu peux pas dire non.
Il
y a eu un Oscar pour le lien, justement. Ah. Un Oscar directement remis au lien qu'il y a entre...
Ah, meilleur...
Eh non, bah c'est Frances le lien, les gars. C'est Frances McDormand qui a joué dans Nomadland.
Oui.
Qui a eu un Oscar.
Oui.
De Chloé Zhao qui nous revient. Chloé Zhao avec
Eternals.
Les Éternels. Version
Galactus.
Française. Alors, donc, du coup, on renfile la cape. On s'est dépêtré avec Venom et puis on revient avec, du super-héros. Quoi.
Ils ont trusté le cinéma.
On s'en sort pas. Hein.
Mais non, mais c'est intéressant. Écoutez, Chloé Zhao qui nous a sorti une pépite de film qui, là, mort clairement dans,
une nouvelle licence,
dans la pomme.
Ouais. Bah, écoute, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle peut donner chez Marvel.
C'est
avec quand même le retour de Salma Hayek et d'Angelina Jolie dans un Marvel.
J'ai un peu peur aussi.
Et Rob Stark.
Rob Stark. Et oui, il y en a plein, il y a beaucoup de gens au casting. J'ai très hâte d'en parler parce que vous le savez, moi je suis un gros fan de Marvel et puis ça a l'air nouveau quoi dans tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. On aura l'occasion d'en débattre. Ce sera la semaine prochaine, The Eternals. En attendant, vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes les chaînes,
les plateformes
d'écoute. De Spotify à Deezer en passant par Apple Podcasts où vous pouvez venir nous noter, nous mettre
podcast
un petit
addict.
Commentaire, podcast addict, vous abonner aussi, il y a certains où vous pouvez vous abonner.
Mettre des étoiles.
Voilà, notre site internet fetabea.fr et puis bien sûr les réseaux hein, sur lesquels on partage tout ça et puis plein de choses sur le ciné et des jeux et vas-y, plein de trucs, oui. Facebook, Twitter, Instagram. On va continuer de se faire des BA dès la semaine prochaine et en attendant, vous aussi, faites votre BA comme par exemple... Clémence
comme par exemple au cinéma, tout garder dans sa bouche, les chewing-gums, les pop-corns et les commentaires.
Oh, j'aime bien.
Voilà,
oh.
Fermez
c'est
vos
vrai
gueules,
que les gens
putain.
Parlent trop pendant les films.
Fermez
je dis ça,
gueules.
Je suis la première à le faire.
Eh bah, ben, applique ce conseil à toi-même.
Sur ce, au revoir.
Eh, hey, bisous à vous
et
tous
des
et
à
toutes.
Tous.
Salutations distinguées.
Au revoir.
C'est pas Tom, Tom et Nana, mais alors...
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre Tom, Tom et Nana, la ligne claire, mais vas-y, qu'est-ce que tu
dis ? Partir plutôt d'entendre ça plutôt que d'être sourd.